BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigauderie.
Et bienvenue pour une nouvelle édition de TPI, tout pour investir sur BFM Business, votre émission, l'émission qui fait fructifier votre capital, qui vous instruit économiquement en direct tous les matins à la radio, à la télé, sur le web et bien évidemment à retrouver en podcast. Au menu, bon, petite baisse hein, sur des marchés plutôt calmes, mais un calme quand même bien trompeur, avec des petites fébrilités côté marché américain. Un dollar qui n'en finit pas de baisser quand même, des indices de volatilité qui interrogent, des risques de bulles spéculatives autour de l'IA, l'or qui bat record sur record. Bref, est-ce qu'on n'est pas en plein milieu du plus gros faux calme de l'histoire du monde de la finance? Quelles conséquences pour vos investissements, pour l'allocation de vos actifs? Tableau de bord complet dans quelques secondes. Et puis on déchiffre tout ça évidemment avec Christian Fontaine du magazine Le Revenu et Félix Baron du club des investisseurs indépendants. Si vous êtes investi en action et que vous jouez au day trader, bah, votre plan de trading du jour est à retrouver dans les arbitrages ce matin avec Gilles Santacreux de boursicoté.com. Vos petits trésors aussi à protéger, à choyer. Gros plan sur un sujet de saison, le PER, le plan épargne retraite. Toutes les opportunités et les bons conseils à retrouver dans notre boîte à outils, l'actu de votre patrimoine. Ce sera tout à l'heure, toujours avec Christian Fontaine du magazine Le Revenu qui restera avec nous. Petit détour par la Suisse pour la gestion de votre portefeuille avec notre trader chroniqueur suisse Thomas Veillet qui passera une tête dans l'émission pour nous parler des statistiques américaines à venir. Ou pas, en fin de semaine, hein, il est question d'un petit shutdown. On parlera également de Nike, hein, de la Big Pharma, enfin bref, de l'actualité des marchés. Enfin, votre coffre-fort avec Marion Chapelle, maçon de Carillon, en fin d'émission. Assurance vie, oui, mais pas sans une règle de 3 qu'elle viendra nous expliquer en fin d'émission. Toutes les questions que vous pouvez vous poser sur votre patrimoine, vous nous les posez par mail direct à bfmbusiness.fr. Vous nous envoyez un SMS au 732-16, tapez le mot-clé business suivi de votre message et puis vous pouvez me joindre directement sur Twitter, sur X, faut dire maintenant, hein, sur X à Antoine Larigauderie et je répondrai à vos questions en cours d'émission. L'actualité du jour, beaucoup de géopolitique. Le compte à rebours est donc lancé aux États-Unis. Il reste moins de 24 heures pour trouver un compromis sur le budget, faute de quoi, eh bien, shut down, la paralysie budgétaire de l'État fédéral. Une dernière tentative de compromis entre républicains et démocrates a eu lieu hier soir, mais sans succès. Dans le même temps, Donald Trump annonce de nouveaux droits de douane, hein, 10% sur les importations de bois de construction, 25% sur les lavabos et sur les armoires de cuisine. Bon, entrée en vigueur le 14 octobre, selon le document signé par le président, qui a par ailleurs réaffirmé alors sa volonté aussi de taxer à 100% les films produits hors des États-Unis. Donald Trump qui a aussi proposé son plan de paix pour Gaza, plan soutenu par Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien qui était à la Maison-Blanche hier soir. 8 pays arabes musulmans ont salué ensemble les efforts sincères du président américain pour mettre fin à la guerre, comme Paris et Londres, qui sont très positifs devant cette feuille de route. Alors, à la clé, 20 points, à commencer par un arrêt des combats qui s'accompagnent du retrait des forces israéliennes, d'une libération des otages dans les 72 heures. Les médiateurs qataris et égyptiens ont transmis le document de la Maison-Blanche au Hamas, qui n'a pas encore réagi. Le budget en France, voilà quelques orientations à suivre. De toutes petites pistes, hein, glissées par les participants au déjeuner du socle commun organisé à Matignon. Alors, devant ses interlocuteurs, Sébastien Lecornu a affirmé que certains impôts devront baisser, notamment en faveur du travail. Dans l'autre sens, la limite sera de ne pas abîmer la croissance ni l'emploi, dit le Premier ministre qui a invoqué un projet de loi en parallèle du budget pour lutter contre les fraudes fiscales et sociales. En Allemagne, la consommation reste dans le rouge à la surprise des économistes. Elle a reculé de 0,2% en août sur un mois. Le consensus tablait quand même sur une hausse de 0,6%. Et puis du côté de la Chine, l'activité manufacturière a décliné pour le sixième mois consécutif en septembre, selon les indices PMI. Les producteurs étant toujours en quête de mesures de soutien de Pékin et de plus de clarté quant à la guerre commerciale avec Washington. Allez, on regarde les marchés, votre tableau de bord tout de suite.
Tout pour investir, le tableau de bord.
Avec des marchés alors relativement calmes encore ce matin, on a une petite baisse sur le CAC 40, moins 0,37% et on recule légèrement sous les 7900 points. Alors visiblement, c'est la limite du moment, la résistance technique qui ne veut pas sauter. 7851, une tendance un petit peu meilleure sur l'Euronext Tech Leaders qui est dans le vert, hein, plus 0,08%. Mais on est en légère baisse aussi sur les autres indices européens, notamment l'Eurostoxx 50, moins 0,18%, moins 0,12% pour le DAX à Francfort. Alors c'est vrai qu'après la séance de hausse hier, à nouveau une baisse. Mais vraiment, on voit que c'est sur des écarts de points quand même très, très limités. Alors, on attend, on est dans une posture attentiste. Il y a des chiffres qui doivent être publiés en fin de semaine, et notamment le rapport américain sur l'emploi. Est-ce qu'il sera publié l'immobilier, étant donné qu'il y aura sans doute un shutdown, là, véritablement. En 24 heures, ça va être difficile de trouver un accord parlementaire aux États-Unis. Donc, on verra, hein, parce que s'il y a shutdown, il n'y a pas de publication des statistiques. Maintenant, voilà, il y a énormément d'incertitudes sur les marchés qui traînent, qui incitent les investisseurs à la prudence. Alors, si on regarde du côté des marchés actions dans le détail, on voit que c'est Publicis qui signe la plus forte hausse du CAC 40, mais vous voyez, plus 0,85%, c'est pas beaucoup, hein, 80,60 €. On a Schneider Electric plus 0,8 à 236,10 €, Vinci plus 0,69 à 117,10 €, Saint-Gobain aussi plus 0,46%, 91,36 €. Donc vous voyez des valeurs plutôt traditionnelles, plutôt défensives, hein, en tête des progressions de l'indice vedette. Total Energy, ça se passe toujours pas très bien. Le titre a perdu déjà plus de 2% hier en clôture et il continue à la baisse, moins 2,64 à 51,65 €. Il y avait pourtant ce roadshow américain censé attirer les capitaux américains au capital de Total. Les institutionnels du pays représentent déjà la moitié du capital coté en bourse. Le titre Total, en plus, va être coté à Wall Street. Alors, pas de double cotation, mais c'est la cotation qui va continuer pendant les heures d'ouverture de Wall Street. Malgré tout ça, le titre Total recule surtout avec les cours du brut. Et c'est vrai qu'on a eu quand même une correction massive. On est à 66,58 € en ce moment sur le baril de Brent de Mer du Nord, alors qu'on était plutôt près des 68 en fin de semaine dernière. Du côté du brut léger américain, on est même passé sous les 63 $. Alors, on reste dans le fond de sauce de la réunion de l'OPEP qui doit avoir lieu dans quelques jours, hein, théoriquement dimanche, et où devraient être actées des hausses de production qui devraient donner un marché un petit peu surapprovisionné. Et donc, cet ajustement qui était voulu d'ailleurs par Donald Trump. Donc, ça va rester un catalyseur de marché important. La plus forte baisse du SBF 120 est pour Ubisoft. Moins 4,16% à 9,57 €. Alors, beaucoup d'agitation sur le marché des jeux vidéo. Vous avez vu hier Electronic Arts qui est sous le coup d'un rachat en LBO à 55 milliards de dollars. Ce serait un des plus importants de l'histoire. Et puis, la plus forte hausse du SBF 120, elle est pour Valneva, avec de nouvelles études très positives pour son vaccin contre le chikungunya. Et le titre prend 11% à 5,08 €. Mention spéciale pour Atos, qui n'en finit pas de se redresser. Le titre gagne encore 6,5% ce matin à 53,81 €. Un mot des taux. On fait jeu égal avec l'Italie. 3,53 € partout, hein, sur l'OAT 10 ans, sur le 10 ans italien. Ça continue à se détendre un petit peu. Du côté de la dette américaine, ça reste stable. À 4,13, on ne veut plus bouger de ces 4,1% et un petit peu au-dessus. Et puis le pétrole, je vous en parlais, 66,59 $ pour le baril de Brent de Mer du Nord. Et l'or, l'once d'or fin, perd quelques dollars, mais on reste encore sur des records historiques. 3,845 $ l'once. On va décortiquer tout ça avec nos invités du jour.
Tout pour investir, le déchiffrage.
Et oui, comme tous les matins, on déchiffre ce matin Christian Fontaine du magazine Le Revenu. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Merci Christian, merci d'être avec nous. Et Félix Baron du Club des investisseurs indépendants. Bonjour Félix.
Bonjour Antoine, bonjour Christian.
Alors, on va peut-être parler du dollar. Le dollar qui fait, a priori, sa pire année depuis 1973. Ça reste une des, alors on va pas dire anomalie de marché du moment, parce que c'est très largement explicable, hein, cette baisse du dollar, et on vous l'explique à longueur de journée, hein, sur BFM Business. Maintenant, ça reste un catalyseur maître qui va être indispensable à gérer quand on fait de l'allocation d'actifs, hein, pour savoir ce qu'on vend, ce qu'on garde, les ETF, les actions, investir dans la croissance américaine, oui, pourquoi pas, mais avec une devise qui se déprécie comme ça, ça devient compliqué. Bref, Félix, où est-ce qu'on en est de ce sentiment autour de la devise américaine?
Eh ben, on en est à un paradoxe. C'est la pire année du dollar depuis 73. Le US Dollar Index a perdu 13% depuis le début de l'année. Et le paradoxe, c'est que le dollar se déprécie depuis justement qu'il a été décroché de l'or en 71. Et c'est impossible de parler du dollar sans parler de l'or.
Mais je vais essayer
de... Parce que c'est une question de point de vue. On peut dire que l'or progresse, mais on peut aussi dire que le dollar s'affaiblit et c'est finalement extrêmement lié. Il y a une corrélation assez forte. Avant, on se disait c'est toujours bon d'avoir du dollar parce que de toute façon, c'est la monnaie de règlement des dettes, c'est la devise internationale de règlement des dettes. Et en cas de crise, on veut rembourser sa dette, donc le dollar s'apprécie. C'est toujours vrai, évidemment, mais on a quand même dans les échanges et sur les places boursières une dépréciation du dollar qui fait que investir dans la croissance américaine, vous le disiez, c'est plus tellement intéressant. Donc, on a moins 13%. Je reprends sur le dollar index depuis le début de l'année,
oui,
et l'or qui en est à plus 30%. Et pourquoi en fait le dollar continue à se déprécier? Ce qui est grave en fait, c'est que la Fed vient, on l'a vu, d'entamer une nouvelle cycle de baisse des taux. Pourquoi pas? On sait que ça va affaiblir l'or, mais le dollar, pardon, je m'y perds.
Oui,
mais elle le fait alors même que l'inflation est au-dessus de 3%.
Ouais.
Donc, ce qui est censé en fait se déclencher une fois qu'on a contenu l'inflation va encore l'aggraver et affaiblir le dollar. Donc, et ça continue par un effet d'entraînement. Les taux réels chutent, le dollar se déprécie, l'or devient plus attractif et ça nourrit les anticipations. La première raison, une des raisons de la faiblesse du dollar, c'est quand même que les investisseurs anticipent que cette poursuite en fait de la Fed et des baisses de taux va continuer et que ça va continuer à ce desserrement de la politique monétaire à affaiblir le dollar. Deuxièmement, évidemment, si on baisse les taux, c'est pour nourrir des déficits, pour nourrir le train de vie de l'État américain. Et que ces déficits américains restant abyssaux, ça va peser sur la confiance dans la monnaie. Et puis troisièmement, en fait, ce qui déprécie le dollar par rapport à l'or, je parlais de l'or et du dollar, c'est toujours lié, c'est que maintenant, face aux tensions géopolitiques, et il y en a énormément, avant on se tournait vers le dollar plus facilement, et bien maintenant on se tourne de plus en plus vers l'or, et c'est amplifié notamment par les achats des banques centrales depuis le début de l'année. C'est un rythme jamais vu depuis 50 ans. On sait que les États-Unis, la banque centrale, la Fed en achète, mais aussi en Chine et aussi en Italie et aussi, alors la France non, mais aussi en Allemagne. La Turquie devient aussi un grand détenteur de réserves en or. Tout ça pour dire que cette dynamique, et qui est un peu malsaine parce que vous avez combinaison d'inflation, de déficit et de perte de confiance dans la monnaie, dans le dollar, ça rappelle la fin des années 70 quand on était à un dollar extrêmement faible. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regardé les chiffres juste avant de rentrer en plateau avec, avec Christian. En janvier 79, l'once d'or était à peu près à 216 $. En janvier 1980, un an plus tard, elle était à 843 $. Donc tous les commentateurs qui nous disent l'or est en parabolique, ça peut plus monter, etc. Le potentiel est encore énorme.
Alors évidemment,
l'once d'or a descendu après, mais c'est pour vous dire que face à la défiance du dollar, l'or a toujours gagné.
Christian Fontaine.
Les risques ou opportunités, j'aurais tendance à dire. Alors bien sûr, tous les particuliers, on sait qu'ils sont nombreux, notamment parmi les plus jeunes qui ont investi dans les GAFAM, enfin en actions américaines. C'est vrai que cette année, lorsqu'on regarde le Standard & Poor's en euros, donc on est flat alors qu'il y a une hausse autour de 13% en dollars. Maintenant, franchement, à titre personnel, je préfère investir aujourd'hui en actions américaines qu'avec un dollar à la parité avec l'euro. Alors, ça ne veut pas dire que le dollar va se revaloriser tout de suite. Ça veut dire qu'en fait, il faut pleinement intégrer la gestion d'échanges dans la gestion de son patrimoine. Lorsqu'on pense allocation d'actifs, on se dit répartition entre l'immobilier puis les placements financiers, répartition au sein de la poche placement financier entre le coté, le non-coté, voire des placements alternatifs comme les cryptos. À l'étranger, notamment en Suisse, notamment au Luxembourg, tous les gestionnaires de patrimoine raisonnent en termes de devises aussi. Je vois plutôt dans la baisse du dollar pour les investisseurs en euros, ça peut être une opportunité de se renforcer donc dans des actifs américains. Ça peut être aussi une opportunité un tout petit peu de changer sa stratégie. Il y a beaucoup de particuliers qui sont investis en actions américaines dans des fonds ou des ETF hedgés. C'est peut-être le moment de sortir de ces fonds hedgés et de commencer progressivement à augmenter l'exposition au dollar.
Pour profiter de la décote, justement.
Bien sûr, pour profiter de la décote. Et pourquoi pas aussi avoir une petite poche, alors beaucoup moins importante, bien sûr, mais en livre sterling ou par exemple en franc suisse,
enfin
au-delà d'un certain montant je dirais de patrimoine, une gestion multi-devise. Alors, il s'agit pas d'investir 30 ou 40% en franc suisse ou 30 ou 40% en livre sterling,
mais etc.
Non, une petite poche de 5% qui peut être un peu plus importante pour le dollar, hein. Et puis tous ceux qui voyagent aussi, c'est exposer un tout petit peu au dollar, c'est profiter d'un pouvoir d'achat un peu stable, c'est notamment lorsqu'on voyage dans la zone dollar.
Effectivement. Alors, je voulais vous rendre justice, Félix Baron. On avait dû s'interrompre parce qu'on n'avait plus le temps la semaine dernière, mais attention à ce qui se passe autour de la mesure de la volatilité, en particulier le VIX, l'indice VIX de la Bourse de Chicago qui mesure la volatilité du S&P 500. Ça fait des mois qu'il ne fait rien. Qu'on est, alors pas au plus bas historique, hein, mais on est vraiment sur des niveaux très modérés du côté des 16 points, et encore en ce moment on y est. Mais On a eu plusieurs petites incursions là ces derniers jours, au-dessus de ce niveau symbolique. Et tout de suite, on a vu les analystes du côté des marchés américains dire « Attention, il y a un gros problème de complaisance avec le VIX, avec la mesure de la volatilité. » Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments là-dessus ?
Oui, c'est un peu technique, mais on va essayer de dire les choses simplement. Le VIX, donc, mesure la volatilité anticipée à 30 jours, pas la volatilité passée. Donc, c'est globalement le thermomètre de la peur qu'on a sur les 30 jours de bourse qui arrivent. Si on dit que l'indice VIX est à 16, comme vous le disiez, ça veut dire que on se dit, sur l'année qui va arriver, le S&P 500 peut varier de plus ou moins 16%. Donc, c'est une volatilité, c'est pour ça que vous le disiez, au-dessus de 15, au-dessus de ce palier, ça commence à un petit peu alerter les marchés. Quand il passe au-dessus de 20, là, ça fait peur. Et puis, vous avez des pics qu'on a connus, 5 août 2024, le dernier pic qu'on a connu, probablement aussi...
C'était Lehman Brothers, on était au-delà des 80.
Vous regardez les pics, Covid, etc., Lehman Brothers et tout. Mais si on regarde sur un an, ce qui est intéressant, c'est la tendance, c'est de voir que le VIX... a tendance à, comme vous le disiez, à ne presque rien faire, 0%. Il y a des journées où il augmente de plus ou moins 3%, mais il revient sur cette zone des 15. Et on se dit, c'est quand même bizarre que la volatilité baisse dans un marché, sur des marchés où on parle d'incertitude tous les jours, d'instabilité politique, financière, économique, à tous les niveaux. Et dans ces cas-là, je vous recommande de regarder un autre indicateur qui s'appelle le VVIX. C'est le VIX du VIX.
C'est la volatilité de la volatilité.
Exactement. Ouais. On ne mesure pas la volatilité, on va mesurer le fait d'avoir peur de la peur. C'est un peu technique, mais personne dans les particuliers ne rentre l'indice du VIX, c'est-à-dire la mesure entre les options d'achat et de vente. S'il y a plus d'options de vente que d'options d'achat, c'est qu'on a peur globalement. Mais il y a encore moins de gens qui rentrent sur les options. Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est que le VIX, il est flat ou un peu négatif. Et en revanche, le VVIX, lui, il augmente de plus de 20% depuis un an. Et il est actuellement à 100. Mmh. Et là, c'est à 96, donc pas loin de 100. Et dans cette zone-là, il faut s'alarmer. Ça veut dire que le VIX baisse, le VIX grimpe fortement. En gros, il y a un calme apparent, mais faut pas que ça trompe qui que ce soit, en fait. Ça veut dire que quand le VIX du VIX augmente, ça veut dire que le prix des options sur la peur augmente. Donc, les pros, c'est-à-dire les hedge funds, les investisseurs institutionnels, les grands opérateurs de marché qui achètent en large volume et qui font le marché, sont vraiment à la demande. Ils sont longs sur les positions, sur les options de protection sur le VIX. Donc, ils ont peur d'avoir peur. Ils savent pas quand ça va, entre guillemets, péter.
Oui.
Mais ils se positionne pour ça.
Oui, parce que ce qui est assez amusant finalement, c'est que l'indicateur de volatilité, il est là justement pour être un baromètre du stress de marché, mais en fait, il est employé un peu à contre-emploi. Je regarde les derniers mouvements de marché. En fait, il n'a l'air que de grimper quand le marché baisse assez nettement, puis se réduire quand le marché remonte. Ça a l'air d'être une sorte d'amplificateur de tendance et pas tellement de mesure des écarts. Est-ce que vous ne pensez pas justement qu'il est un peu sorti de son objet, ce VIX qu'on regarde ?
Je pense qu'il y a deux choses, il y a deux biais. Le premier, c'est que le S&P rassemble beaucoup de retail money, d'investisseurs particuliers. Il y a beaucoup plus de particuliers qui viennent sur ce marché que depuis la création de l'indice du VIX il y a une vingtaine d'années. Donc, il est aussi lié en fait au dernier flux, au flux de panique qui arrive sur les marchés. Et les flux de panique, généralement, ne sont pas ceux des grands fonds qui agissent souvent en premier, mais plutôt des derniers arrivés. La deuxième chose, c'est qu'on a intégré en fait depuis un an et demi, deux ans, on a intégré que le marché était volatile. Donc en fait, un VIX aux alentours de 15 n'inquiète plus vraiment.
Ouais,
avant, c'était vraiment entre 10 et 15, on se disait c'est la norme, ce couloir-là, on doit rester dans ce couloir, voire descendre en dessous. Enfin, si on descend en dessous, c'est inquiétant pour se dire que le marché ne va pas beaucoup augmenter. Mais maintenant, quand le VIX varie entre 15 et 25, ce qui arrive globalement tous les trois mois, au gré des droits de douane, d'une déclaration de Trump ou d'un événement géopolitique, eh bien, il a vite fait de redescendre puisque c'est intégré pour la totalité des acteurs de marché qu'on est sur des marchés volatiles et instables.
Bon, on va faire du concret maintenant, Christian Fontaine. On dit tous ces paramètres, que ce soit le dollar, que ce soit la volatilité, ça a un impact sur votre allocation d'actifs. Et vous répondez à un lecteur qui a des lignes sur ses expositions actions. Bon, on va dire qu'il y a peut-être deux, trois trucs à bouger. Expliquez-nous.
Oui, alors on a un auditeur, en fait, Frédéric de Bordeaux, qui nous a envoyé son portefeuille. Peut-être qu'on peut le voir à l'antenne. En fait, il nous a envoyé ses principales, la totalité de ses lignes. En fait, il y en a une quarantaine, mais je vous ai envoyé que les 15 premières. Ouais. Antoine. Alors, que remarque-t-on? En fait, bon, il y a du Trigano, il y a du Spi, du Rexel, de l'Ipsos, du Sanofi, Bain de Mer, Accor, Bolloré, et tout ça avec des pondérations entre 7% et 2%. Donc, que remarque-t-on? D'abord, c'est...
Très franco-français,
alors,
quand même.
C'est bien sûr, c'est très franco-français. C'était mon deuxième point. Le premier point, c'est qu'il y a plutôt des belles valeurs, des valeurs qui sont recommandées par décision bourse du groupe Le Revenu, Sanofi, Trigano, Bain de Mer de Monaco, Orange, Ipsos. Mais vous avez très peu vous avez très peu de valeurs du CAC 40. Vous n'avez pas nos champions nationaux. Vous voyez, les Schneider, les Saint-Gobain, les LVMH, etc. sont totalement absents. Ça serait le premier bémol. Alors, le deuxième bémol, effectivement, vous l'avez dit, il n'y a aucune, de mémoire, aucune valeur étrangère. Alors que cette année, la croissance des bénéfices par action aux États-Unis devrait être plus de deux fois supérieure à la croissance des bénéfices par action en Europe. Et lorsqu'on regarde la performance comparée des bourses des deux côtés de l'Atlantique au cours des 10 dernières années, il n'y a pas photo. Donc, effectivement, le premier conseil est certainement à donner à Frédéric, que ça serait de mondialiser ses placements. Alors, soit par des investissements en direct, soit via des ETF. Hein. Il peut commencer par un pourquoi pas une diversification au niveau européen avec un iShares Core Eurostock 50 par exemple, et puis bien sûr aussi un ETF investi en actions internationales. Alors, le premier point que vous évoquiez tout à l'heure, et vous avez entièrement raison, en fait, la totalité de son portefeuille comprend une quarantaine de lignes et les expositions les plus importantes, c'est autour de 6-7%. Il n'y a qu'une valeur de mémoire Trigano à 7,6%. Tout le reste, après ça, on tombe très vite en dessous de 5%.
Ouais.
Donc là, deux questions. Comment, Frédéric, vous réussissez à suivre autant de valeurs? Et puis surtout...
Il est fort.
Ouais, il est très fort. Et puis
lui,
surtout,
c'est pas une heure par semaine. Hein.
C'est beaucoup plus. Ouais. Et puis, il peut y avoir un effet même démotivant, puisque même s'il mise sur un bon cheval, imaginons, il a une position de 1% sur une valeur qui double. Ben, en fait, quand l'impact sur la totalité de son patrimoine, de son portefeuille, ouais, il va être forcément que de 1%. Mmh. Il va gagner 1%, ce qui est en fait très faible.
Alors qu'être au-delà des 7% sur Trigano,
alors c'est sportif. On peut être, oui, alors, et on peut être au-delà de 7% sur des valeurs comme LVMH, Total ou Air Liquide, par exemple. Vous voyez, un portefeuille, il y a plus de 900 000 particuliers en France qui ont du Air Liquide. Le nombre d'actionnaires individuels a doublé sur Air Liquide, et là, il n'y a pas de... Donc, ce titre-là pourrait être intéressant. Donc, voilà, j'aurais tendance à dire mondialiser et concentrer ce portefeuille avec des lignes entre, on va dire, entre des pondérations entre 4 et 10, voire 15%. Ça semble plus raisonnable. Quelques conseils à Frédéric de Bordeaux.
Merci Christian Fontaine du magazine Le Revenu. Vous bougez pas, hein, vous revenez dans quelques minutes nous parler du PER cette saison, plan d'épargne retraite. Merci Félix Baron du Club des investisseurs indépendants.
Merci,
et vous avez enfin pu parler du VIX, et j'y tenais, hein, parce que franchement, c'est un sujet important
de le comprendre.
Absolument. Attention, tout de suite, on va arbitrer très concrètement.
Tout pour investir. Arbitrage.
Gilles Santacreux, boursicoté.com. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Que nous dit ce CAC 40 qui se casse à nouveau le nez sous les 7900 points? Et là, on a besoin à nouveau d'un petit pullback. Mais enfin, globalement, on évolue sur des marges super étroites en ce moment. La configuration technique a pas changé de manière décisive, hein, ces dernières heures.
Alors, on a l'impression qu'elle change pas, mais il y a quand même des signaux qui sont en train d'apparaître qui nous disent que ça pourrait commencer justement à bouger. Pour comprendre ça, il faut reprendre la séquence depuis mercredi dernier. Mercredi dernier, on a eu un enfoncement baissier. Ensuite, on a ouvert sur un gap baissier avec une bougie d'hésitation et on est remonté vendredi. Ça nous a donné une configuration chartiste qui s'appelle une étoile du matin et qui a été quasiment confirmée hier, puisque c'était l'étoile du matin étant un signal haussier. On a ouvert sur un gap haussier et puis on n'a pas eu de relais, c'est-à-dire qu'on attendait un retour sur la zone des 7910 points qui n'est pas arrivé. Et là, on invalide ce signal avec justement une autre ouverture sur un gap, mais baissier cette fois-ci, qui nous ramène au milieu d'un range que le CAC 40, dans lequel le CAC 40 évolue depuis quasiment le début du mois. Donc on voit qu'on reste ici sur une dynamique qui est neutre, mais l'ouverture multiple de ces gaps nous montre qu'on commence à avoir une certaine nervosité. On a de l'incertitude actuellement, c'est-à-dire que on a toujours quelque chose qui empêche un petit peu les investisseurs de d'avancer sereinement. Là c'est le shutdown, on ne sait pas trop si on va aller au bout ou s'il va y avoir un accord de dernière minute qui va être trouvé. Et donc globalement, on continue à évoluer dans cette zone. On attend un retour au-dessus d'une zone 7910, 7930 pour vraiment impulser un vrai mouvement haussier, alors que je dirais le mouvement d'alerte qui pourrait commencer à nous donner je dirais des signaux baissiers mais assez négatifs se situe sous 7780 points. Donc là en fait on est dans cette zone d'incertitude, on ne bouge plus depuis maintenant quelques jours, mais on voit que on commence à avoir une certaine nervosité qui commence à grandir, qui, si on retrouvait du directionnel, eh bien, pourrait nous provoquer une hausse de la volatilité. Donc, pour l'instant, même au niveau de mes algos, c'est assez indécis. On a des probabilités d'évolution qui sont neutres, voire légèrement baissières. Mais pour l'instant, il faut attendre justement le dépassement de l'une ou de l'autre de ces zones, à savoir soit la zone de résistance 7910-930, soit 7760, pour trouver un vrai message directionnel sur le marché.
Gilles, il nous reste une minute. Il y a quand même un secteur qui fait le job depuis le début de la semaine, et c'est le secteur bancaire qui reste vraiment stable et qui profite des phases haussières pour se renforcer. Et c'est peut-être bien Société Générale qui confirme son statut de best in class.
Ouais, Société Générale, ça fait un moment que je la surveille, et ce qui est intéressant avec cette valeur, c'est que déjà elle surperforme le secteur. Donc c'est vrai que lorsque l'on veut s'investir sur un secteur, et notamment le bancaire ici, eh bien on essaye de trouver le meilleur de la classe. Et ce qui est intéressant avec cette valeur, c'est qu'elle est assez résiliente sur les phases de stress, et qu'elle elle répond bien à la dynamique sur quand l'indice retrouve la hausse. Donc c'est une valeur que je surveille. Là ce que j'attends, c'est de voir si on parvient à franchir une zone de résistance à 59,35. C'est une zone qui a été testée au milieu du mois d'août et au milieu du mois de septembre. On est resté à proximité directe de cette zone, et un franchissement de celle-ci nous donnerait des signaux haussiers de continuité qui seraient assez intéressants. Là, on est sur une phase de consolidation horizontale depuis quelques semaines. Si on reprenait la hausse, cette valeur, semble-t-il, a encore beaucoup de potentiel.
Société Générale, le titre est en hausse de 0,18% en ce moment, 56,72 €, une meilleure performance du CAC 40 depuis le début de l'année. Merci beaucoup Gilles Santacreux, boursicoté.com. Un peu de pub et restez avec nous, deuxième demi-heure. Alors on prend soin, on chouchoute votre patrimoine avec notamment un gros plan sur le PER avec Christian Fontaine du magazine Le Revenu, et puis une stratégie innovante et à vraiment garder à l'œil pour vos assurances vie. On sera avec Marion Chapelle Massot de Decarion. À tout à l'heure.
Tout pour investir, l'actu du patrimoine.
C'est, j'arrête pas de le dire, et puis on va finir par changer le titre de cette rubrique, mais c'est la boîte à outils, véritablement, de TPI qui s'ouvre avec l'actu de votre patrimoine. Et on retrouve Christian Fontaine du magazine Le Revenu. Rebonjour Christian. L'automne, c'est la saison du PER. Alors, on peut peut-être juste rappeler pourquoi l'automne, c'est une saison importante pour prendre soin de son épargne retraite.
Alors, l'automne, en fait, là, on est juste à 3 mois de la fin de l'année, du 31 décembre. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez payer moins d'impôts l'année prochaine sur les revenus encaissés cette année, vous devez impérativement agir avant la fin de l'année. Donc, l'automne, c'est le moment où il convient, de peaufiner ces stratégies de défiscalisation. Vous avez deux grands moments fiscaux dans l'année. Vous avez la déclaration de revenus au mois de mai, début juin, mai. Et puis ensuite, vous avez la défiscalisation de fin d'année. Alors, il est largement, et c'est pour ça qu'on en parle maintenant, il est plus que conseillé de ne pas se réveiller le 15 décembre. Souvent, c'est trop tard. Et puis, il y a un temps minimum de souscription de ces produits aux revenus. On aime bien de ces placements à gomme fiscale. Parfois, il faut un tout petit peu de temps trouver, le produit qui est adapté à votre bonne stratégie patrimoniale. Ensuite, dénicher le contrat, qui offre les meilleures caractéristiques sur le plan technique et financier. Ensuite, effectuer le versement, tout ça prend un petit peu de temps.
Alors, on le répète, défiscaliser, gommer fiscalement, c'est pas se soustraire à l'impôt, c'est bénéficier de mécanismes qui vous permettront d'avoir quelques sous pour votre retraite. Et c'est bien l'objet du PER.
Alors, vous avez entièrement raison de le préciser, parce que défiscaliser, c'est un grand mot aujourd'hui, c'est devenu un grand mot, notamment auprès des cabinets d'avocats.
C'est pas les caïmans,
non. C'est pas les Pays-Bas, c'est même pas le Luxembourg, c'est pas la Suisse, etc. Il s'agit, c'est vrai, et ça vous le répétez très souvent sur votre antenne et au revenu aussi, c'est l'une des caractéristiques majeures de notre code général des impôts, c'est qu'il y a énormément de niches. Alors, qui dit niche dit moins de recettes fiscales, mais dit aussi opportunité pour les particuliers d'en profiter. Personne n'est obligé, nos couleurs, de payer le montant maximum. Et je dirais que aujourd'hui, et c'est là pourquoi il y a une vraie opportunité, je dirais patrimoniale, c'est qu'il y a un outil, il y a une arme un peu atomique de la réduction d'impôts en fin d'année, c'est le PER. Parce que vous avez pour la possibilité d'investir dans du non-coté, vous avez la possibilité de mettre en place des systèmes de déficit foncier si vous êtes propriétaire bailleur. Tout ça, c'est un peu compliqué. Il y a des contraintes de risque encore en face. Et le PER, le plan d'épargne retraite qui a été institué par la loi Pacte de juin 2019 de mémoire, eh ben, c'est un placement, je dirais, il n'y en a pas beaucoup. C'est un placement qui vraiment s'adresse à tout le monde, à un très grand, volet d'investisseurs, puisque c'est un placement qui permet de réduire vos impôts pour préparer votre retraite. Donc, on voyait bien, il y a près de 20 millions de Français qui payent l'impôt sur le revenu et tous les Français qui sont peu ou prou concernés par la préparation de la retraite. Hein. On rappelle que pour un cadre, les pensions versées par les régimes obligatoires de retraite, généralement, tournent, ne dépassent pas 50% du dernier salaire d'activité. D'où la nécessité de se réveiller. Et c'est vrai que cet outil est très populaire. Il a déjà été adopté par plus de 11 millions de Français. Et donc, il ne faut pas hésiter à ouvrir un plan d'épargne retraite, notamment pour la fameuse carotte fiscale à l'entrée. Hein. On rappelle que si vous versez 1 000 euros sur un PER et que vous êtes cadre, vous réduisez peu ou prou vos impôts si vous êtes taxé dans la tranche à 30% de 300 euros. Si vous versez 10 000 euros en couple, ça fait quand même 3 000 euros d'impôts en moins. C'est pas négligeable, surtout que là, si vous n'avez pas encore défiscalisé via cet outil, vous pouvez utiliser vos plafonds de défiscalisation d'épargne retraite non utilisés au cours des 3 dernières années, se cumulent, et donc ça vous permet de défiscaliser 4 fois plus. Hein. Donc si vous versez 30 000, 40 000 euros que vous êtes en couple, ça peut vous permettre de réduire votre impôt sur le revenu l'année prochaine de 12 000 euros. Donc c'est vraiment un outil très 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 puissant.
Là, il y a l'aspect carotte fiscale. Il faut aussi parler du fait que c'est un placement qui est régulier, qui est de long terme. C'est pas de la spéculation, c'est pas faire travailler son argent de manière dynamique. C'est vraiment organiser sa complémentaire retraite via les marchés financiers.
Alors, organiser, vous avez prononcé le bon mot, presque le mot magique. Et pourquoi vous organisez ? Parce que vous pouvez verser tous les ans, mais si un jour vous avez un trou, je dirais une petite difficulté sur le plan budgétaire, vous pouvez ne pas verser tous les ans, vous pouvez sauter une année, il n'y a aucun problème. Et surtout, l'argent que vous versez dans un PER, il est bloqué jusqu'à la retraite. Et là, vous voyez, la façon dont je m'exprime, c'est un avantage. Pourquoi c'est un avantage ? Parce que lorsque vous commencez à alimenter un PER vers 25 ou 30 ans, eh bien, il faut être très fort, très costaud sur le plan financier pour ne pas être tenté de puiser dans son épargne retraite à 40, 45 ans pour se faire plaisir, un bien d'équipement, une belle montre, une voiture. Donc là, l'argent, il est bloqué. Donc c'est vraiment de l'organisation, de la planification patrimoniale à long terme.
Et c'est peut-être son principal avantage d'ailleurs. C'est que ça reste hors scope. Et on ne s'en occupe pas, on ne s'en occupera qu'en temps voulu.
Alors, je dirais que son principal avantage, c'est que vous allez investir sur les marchés financiers l'argent que vous auriez dû payer aux impôts. Et cet argent, bien sûr, placé en bourse, va faire des petits qui vont tomber dans votre besace. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, vous avez raison. Alors, pour certains inconvénients, mais dans votre bouche et dans la mienne, c'est pareil. C'est plutôt un avantage. Cet argent était bloqué. Donc, ça va vous éviter de puiser dans votre épargne retraite pour une dépense plus ou moins futile. Alors, ensuite se pose la question effectivement du choix d'un bon contrat, puisque ça c'est, on est dans le monde des contrats hein, pour l'essentiel. Donc c'est le mode de fonctionnement du PER est assez proche du mode de fonctionnement de l'assurance vie. Ce sont des placements excessivement populaires, mais des placements aussi relativement complexes où un contrat n'en vaut pas un autre. Donc il faut bien sélectionner un produit qui est parmi les meilleurs au niveau des caractéristiques techniques qu'au niveau des caractéristiques financières. C'est une enveloppe fiscale et au sein de cette enveloppe fiscale, vous pouvez investir dans des supports d'investissement plus ou moins risqués. C'est là où c'est extraordinaire. Alors, attention aussi, le petit biais, c'est qu'on est en France, les Français n'aiment pas prendre de risques.
Jamais.
Alors surtout au sein de cette enveloppe fiscale, prenez des risques. Puisque votre argent, il est immobilisé 10, 15, 20, voire davantage de temps. Donc vous êtes sur vraiment un horizon de placement long. Donc il faut vous positionner sur une classe d'actifs dont les caractéristiques, correspondent à votre temps d'investissement. Et donc là, bien sûr, il faut investir en bourse. Plus la durée d'investissement est longue en bourse, moins vous avez de chances de perdre de l'argent.
Bien sûr.
Une durée de 10, 15 ou 20 ans, vous ne pouvez pas, statistiquement, lorsqu'on regarde le passé, perdre de l'argent. Je dirais même plus. Vous savez, il y a une question qui se pose souvent. Oui, mais si j'investis mon épargne retraite en bourse, c'est que le marché financier s'effondre la veille de mon départ en bourse. Mais en retraite. De toute façon, vous aurez tellement gagné.
Temps long, hein, ben oui.
Sur 30 ou 40 ans, vous allez doubler, tripler, voire quadrupler votre capital investi en bourse. Donc même si la bourse chute la veille du jour où vous liquidez votre pension dans la régime obligatoire de retraite, il n'y a pas de panique, vous serez encore largement positif sur votre épargne retraite. Et j'irais même encore un peu plus loin dans cette logique-là, personne ne puise la totalité de son épargne retraite le jour de son arrêt de cessation d'activité. Donc vous avez encore tout le temps devant vous pour profiter de la remontée des marchés financiers. Je terminerai sur un petit point parce que fiscal qui est vraiment essentiel. Sur votre antenne, et vous avez raison, et au revenu c'est pareil, on explique souvent qu'aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, les avantages fiscaux sont plafonnés à quelques 10 000 euros par an. Vous ne pouvez pas réduire vos impôts de plus de 10 000 euros par an. Et le PER, l'argent que vous versez sur ce plan d'épargne retraite, est hors plafonnement des niches fiscales. C'est pour ça aussi qu'il est d'une puissance considérable. Il permet à des cadres de réduire leurs impôts de 3, 4, 5, 6, 7, 10 000 euros par an pendant de très nombreuses années. Pour les professions libérales, l'effet de défiscalisation est encore plus important. Donc il ne faut pas hésiter à y aller.
Voilà, et faites-vous confiance, prenez un peu de risque. Le temps long, ça aide justement à profiter des perspectives sur des marchés un petit peu plus dynamiques. Merci Christian Fontaine.
Merci à vous.
Magazine Le Revenu, vous voyez la une du revenu avec quand même les retraites.
Eh ben oui, sujet d'actualité.
Sujet d'actualité. Merci beaucoup Christian. Tout de suite, on part en Suisse.
Tout pour investir. Le placement à suivre.
Et on rejoint Thomas Veillet d'investir.ch. Bonjour Thomas, notre trader, bonjour, commentateur des marchés. Vous allez garder un œil sur les statistiques américaines à publier en fin de semaine, si et seulement si elles sont publiées, parce qu'il y a vaguement un shutdown qui nous menace.
Clairement, c'est le gros sujet du moment. Le marché est complètement obsédé par ça. Hein. L'éventuel shutdown. Alors, on sait, il y a eu des études qui ont été faites ces derniers temps, comme quoi, à chaque fois qu'il y a un shutdown, le marché ne baisse pas. Mais aujourd'hui, en plus, on est dans une phase tellement optimiste que finalement, on se rend compte que globalement, le marché devrait remonter, puisque si jamais ça ne sort pas, comme de toute façon, il n'y a pas un gros impact sur le marché, au pire, ça risque de ralentir un petit peu l'économie durant quelques temps. Et puis du coup, qu'est-ce que la Fed va devoir faire ? Baisser les taux. Et donc, bien sûr, on adore ce concept-là. Et donc, ça devrait être positif. Et quand on fait le bilan de tout ce qui est en train d'être dit ou fait, si ça ne sort pas, c'est positif parce que ça risque de ralentir un peu l'économie et la Fed pourrait baisser les taux. Mais si ça sort, si c'est publié en fin de semaine, que ce soit bon, si c'est bon, l'économie va bien, donc on monte. Et si c'est mauvais, l'économie va mal, mais la Fed va baisser les taux, donc on va monter. Et puis si les chiffres sont in line avec les attentes, on se dira que les experts ont tout compris. Et donc on va monter aussi. Donc a priori, si on regarde tout ça, on a une superbe semaine qui nous attend.
Ben oui, forcément. Et on devrait être un petit peu... Vous avez vu, les marchés, ils font rien. Les marchés, globalement, les indicateurs de volatilité, ils restent du côté des 16. On en a parlé avec Félix Baron. C'est peut-être un faux calme qui devient alarmant. Alors, l'autre catalyseur, on a les chiffres américains. Bon, on ne sait pas trop s'ils seront publiés, notamment les chiffres de l'emploi. Maintenant, il y a un truc qui va être publié, et ça, on peut faire confiance aux entreprises pour être à l'heure de leur publication. Et on attend... Alors, le gros des grosses publications aux États-Unis, c'est quand même pas mal sorti, mais on attend Nike. Et ça, c'est quelque chose qu'on regarde de très près, Thomas.
Oui, c'est un gros morceau aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, récemment, enfin depuis une année, ça va pas très bien chez Nike. Le titre a perdu plus de 20%. Et là, depuis le dernier trimestre, on a vu que ça allait un petit peu mieux. Il y avait des signes qui s'amélioraient. On voit qu'ils sont en train de réduire leurs inventaires. On voit que la stratégie du nouveau CEO, qui est là depuis un an, commence à fonctionner. Et que finalement, ça cause beaucoup dans les couloirs en disant que peut-être on est en train de vivre une espèce de turnaround situation sur Nike et que ça pourrait repartir dans la bonne direction. Et c'est la réponse qu'on aura tout à l'heure puisqu'ils vont publier leurs résultats incessamment sous peu. Et donc à ce moment-là, on verra un petit peu si ce trimestre-là, le trimestre dernier était juste un feu de paille ou si vraiment il y a une continuité. Et ce sera très intéressant de voir un petit peu surtout la guidance qu'ils vont nous annoncer. Faut pas s'attendre à des chiffres exceptionnel, mais en tout cas, si on voit une continuité de l'amélioration, je pense qu'on peut avoir une bonne surprise. Techniquement, pour l'instant, on a l'air d'avoir tourné le coin, d'avoir fessé plus bas. On peut espérer que sur des bonnes nouvelles, ce soit intéressant. Deuxième chose au milieu de Nike qu'il faudra retenir, c'est que ça reste quand même un très bon indicateur de la consommation américaine. Ils ont peur de voir que les Américains consomment moins à cause de l'inflation et tous les problèmes de tarifs qu'on connaît. Ils ont annoncé que les tarifs douaniers allaient leur coûter de l'argent. Donc ça, on les a déjà pris dans la figure. On est au courant de tout ça. Et on verra un peu ce qu'ils vont nous annoncer aujourd'hui. Ils ont aussi annoncé leur volonté, il y a 3 mois en arrière, de réduire leur dépendance à la Chine pour des raisons de droits de douane. Et donc, il y aura pas mal de choses à décortiquer dans les résultats, dont ces fameux impacts sur la Chine qui pourraient permettre à Nike de retrouver une tendance haussière un peu plus durable. Si on regarde au niveau des objectifs des analystes, aujourd'hui, Nike a une mise, tout le monde est plutôt constructif. Les objectifs sont globalement au-dessus. La plupart des analystes sont à l'achat. Donc, il y a un regain d'optimisme qui est revenu depuis quelques temps. J'ai envie de dire, pourvu que ça dure.
Ah oui, d'autant que on attend aussi peut-être un impact de ce changement de stratégie de Nike, peut-être vers des produits un peu plus sport, un petit peu plus technique hein, qu'avant, qui était un petit peu fashion et qui était centré sur un ou deux modèles. Enfin, on voyait que ça et pas grand-chose d'autre. On va parler de votre beau pays. Hein, Thomas, on va parler de la Suisse avec la Big Pharma. Alors la Big Pharma, elle fait comme au Royaume-Uni. Elle n'arrête pas d'investir du côté des États-Unis, mais résultat, du côté de la maison mère, il y a des mauvaises surprises, et en particulier les prix des médicaments qui augmentent chez vous. Et ça, c'est pas sans provoquer quelques crispations.
Oui, alors bon, c'est pas encore augmenté en tant que tel, mais c'est vrai que le CEO de Novartis a déclaré la semaine dernière que selon lui, les prix des médicaments en Suisse n'étaient pas suffisamment chers. Alors, c'est pas vrai. Déjà, c'est la première chose. C'est largement assez cher. Ouais. Mais en tous les cas, il y a une volonté de rééquilibrer puisqu'ils vont devoir réduire une partie de leur prix à l'étranger. Alors, évidemment, c'est pas la consommation suisse de médicaments qui va composer la consommation américaine. Mais il y a une volonté, effectivement, de faire payer quelqu'un quelque part. Parce qu'il y a une chose qu'ils n'ont pas envie, sur laquelle ils n'ont pas envie de renoncer en Suisse et ailleurs, d'ailleurs, chez Novartis, c'est aux marges. Donc forcément, ils vont essayer de compenser un petit peu là-dessus et ça devrait nous arriver en pleine figure ces prochains temps. À côté de ça, c'est vrai qu'on a vu que les deux big pharma en Suisse, Roche et Novartis, ont continué à investir massivement aux États-Unis. On voit vraiment qu'ils sont dans la ligne de Donald Trump. Ils veulent vraiment pas prendre de risques. Ils veulent vraiment aller dans sa direction et ils vont tout faire pour continuer à se développer aux États-Unis pour éviter de se prendre les droits de douane pharmaceutiques en pleine figure, puisqu'on sait qu'il a menacé de 100% de taxes ceux qui n'investiraient pas aux États-Unis. En tout cas, en Suisse, on a l'air d'être clair de ce côté-là. Et peut-être que c'est nous, les Suisses, qui allons payer un petit peu plus cher nos médicaments pour soutenir notre grande pharma helvétique.
Oui, et puis en parlant de droits de douane, alors ça tire dans tous les coins hein, du côté de Donald Trump. Alors dernièrement, c'est 10% sur le bois de construction, bon, 25% sur les lavabos. Sur les armoires de cuisine. Ouais. Ah oui, 100% sur les films produits en dehors des États-Unis. Enfin, bon, là, il va falloir faire un inventaire complet parce qu'en plus, on s'y perd. Mais je dois dire que les lavabos, ça, j'y avais pas pensé. Merci beaucoup, Thomas Veillet, d'investir.ch. On vous retrouve très prochainement hein, dans Tout pour investir. Restez Merci avec nous. On va parler assurance vie avec Marion Chapelle Massot de Decarion et une stratégie en 3 temps. Ce sera notre règle de 3. À tout de suite.
Tout pour investir, le coffre-fort.
votre coffre-fort. Et oui, c'est l'endroit où vous planquez vos petits trésors et vos investissements de long, voire de très long terme. Et il y en a un, évidemment, dont on parle, où c'est l'assurance-vie. Marion Chapelle-Massot de Decarion, bonjour.
Bonjour, Antoine.
Merci d'être avec nous en plateau. Alors, se bâtir une stratégie assurance-vie, c'est du long terme. Et vous, vous voyez une stratégie en trois temps, en trois volets. C'est une forme de règle de trois. Expliquez-nous un petit peu ça.
Alors déjà, l'assurance-vie combine trois atouts majeurs que sont la souplesse, le cadre fiscal avantageux et surtout la diversité de supports que l'on peut inclure à l'intérieur du contrat. Alors, pourquoi en trois temps ? L'idée est simple. L'idée est de dire, je divise un seul contrat en plusieurs compartiments. Alors, chaque compartiment va avoir une allocation d'actifs propre,
spécial, ouais.
Spécifique aux objectifs de la vie. Alors, pourquoi je dis objectifs de la vie ? Parce que, par exemple, si vous avez en projet de financer les études de vos enfants et que votre aîné démarre dans 2 ans, eh bien, là, on a un horizon qui est très proche. Donc, on ne va pas pouvoir prendre de risques. On va devoir inclure cette épargne-là pendant 2 ans sur la poche, on va dire, court terme, le compartiment court terme.
Et là, effectivement, on opte pour des choses pas risquées, des choses qui progressent un petit peu, mais de manière sûre.
Le compartiment court terme, liquidité et sécurité prime.
D'accord.
Donc, essentiellement, du fonds en euros, et pourquoi pas si on trouve des produits structurés à capital garanti sur très court terme, adaptés à notre objectif de vie. Ensuite, vous allez avoir la poche, le deuxième temps, qui va être le compartiment on va dire, moyen terme, entre 3 et 8 ans.
Ça, c'est...
Ici, l'objectif est de faire croître l'épargne, tout en absorbant les chocs de marché. On va pouvoir diversifier sur des supports obligataires, sur certaines unités de compte également, mais en conservant une part fonds euros ou produits structurés à capital garanti ou protégé.
D'accord. Et donc, la dernière étape, c'est le placement à très long terme. La structure même du produit assurance-vie, c'est-à-dire, voilà, je m'assure sur la vie et je garantis un capital en cas de besoin, mais... Plus le temps est long, plus on est en mesure de prendre des risques. Mathématiquement, ce qu'on disait avec Christian Fontaine tout à l'heure, c'est le moment justement de faire des choix dynamiques.
Absolument. Christian parlait tout à l'heure du plan d'épargne retraite qui, lui, est bloqué jusqu'au droit de liquidation à retraite. Donc, évidemment, un excellent support pour prendre des risques. Ici, au sein de son contrat d'assurance vie que l'on a compartimenté, on va utiliser cette troisième poche du troisième temps pour accepter du risque pour avoir évidemment plus de rendement. Et ici, on va retrouver les classes d'actifs actions, bien évidemment, mais également les ETF, également pourquoi pas les investissements en private equity.
Oui, qui sont très longs, justement.
Absolument.
Mais très rémunérateurs.
Durée de 10 ans, hein, on le rappelle. Voilà. Et donc, plus rémunérateur, mais là, évidemment, l'objectif de vie, c'est de l'épargne très long terme pour compléter des revenus de retraite éventuellement.
En gros, ce volet-là de l'assurance-vie, c'est celui que vous redécouvrez au bout de 15 ans, vous vous souveniez même plus que vous l'aviez, et que vous dites « Waouh !» Et du coup, c'est la bonne surprise.
Ah, c'est la bonne surprise si on n'a pas, évidemment... tenter évidemment de retirer avant, puisque encore une fois c'est un support qui demeure disponible, hein. On a souvent des échos comme quoi l'assurance vie est bloquée 8 ans. Je rappelle à nos téléspectateurs que l'assurance vie est disponible, hein, oui. Moyennant fiscalité évidemment si on fait un retrait, mais elle est disponible contrairement au plan d'épargne retraite qui, sauf selon certains cas d'accident de la vie ou acquisition de la résidence principale, n'est pas liquide,
oui,
on va
dire. C'est vrai que c'est son avantage, c'est aussi son inconvénient. Et c'est ce qu'on disait aussi avec Christian à propos du PER, que là, pour le coup, le boulot du PER, c'est d'être oublié dans un coin, de travailler et d'être souscrit. L'assurance-vie, le problème, c'est qu'elle sert aussi à financer un certain nombre de choses, que ça peut être tentant d'en débloquer pour un certain nombre de choses, mais il faut être vraiment strict sur ces trois horizons, le court terme, le moyen terme, le long terme.
Exactement. Et l'assurance, l'avantage de cette méthode, c'est aussi que si les projets de la vie changent, ce qui arrive quand même souvent, on peut arbitrer d'une poche à l'autre. Mm-hmm. Donc, vous pouvez très bien avoir finalement un enfant qui ne fera pas d'études et l'épargne que vous aviez économisée pour cet objectif-là, vous pouvez très bien le transférer dans le troisième compartiment pour votre retraite. Et inversement, si vous avez un coup dur de la vie, vous pouvez piocher dans votre épargne. Donc, c'est quelque part un outil incontournable pour nous de la gestion patrimoniale pour optimiser et structurer son patrimoine.
C'est vrai qu'on en a parlé la semaine dernière, notamment de l'assurance vie. Est-ce qu'il peut constituer une opportunité, vous parlez de trois volets, d'avoir trois contrats différents? Ou est-ce que vous préconisez plutôt de garder un contrat qui a trois supports?
Alors, c'est une question que l'on nous pose très régulièrement. Ça dépend vraiment des personnes. Est-ce que un seul contrat, parce que un seul contrat suffit, puisque en plus avec un seuil d'accès plus important, puisque vous allez avoir un seul versement, vous pouvez avoir accès à des contrats qui sont plus haut de gamme, voire accès à des contrats luxembourgeois par exemple, il faut 250 000 euros pour pouvoir y entrer. Si vous en ouvrez trois, vous pouvez pas avoir, peut-être si vous avez cette somme maximum, avoir trois contrats luxembourgeois. Vous avez après aussi la date d'effet fiscal, qui au bout de 8 ans, vous avez une fiscalité qui est réduite sur les retraits, qui peut être intéressante aussi, notamment pour, encore une fois, la poche long terme.
La poche long terme, bien sûr.
Voilà. Donc, c'est vraiment une stratégie. Soit on les souscrit tous les trois au même moment, et on se dit, celui-ci, c'est ma tirelire 1, donc équivalent livré à je ferai des retraits à court terme. Et puis ensuite, deuxième et troisième. Moi, je préconise une meilleure organisation au sein même du contrat, en organisant en trois poches, ou alors, par exemple, en trois faces, si on parle de contrat luxembourgeois, mais on a peut-être l'occasion d'en reparler plus précisément. Ce sont des stratégies qui sont extrêmement usitées dans nos métiers et qui permettent, c'est vrai, de peut-être, pardonnez-moi l'expression familière, mais volontairement, mais de bon sens, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, tout en restant dans le même poulailler fiscal.
Exactement. Mais excellente idée. Et puis, ne pas oublier que plus le temps est long, plus vous pouvez prendre des risques. Et c'est pour ça, véritablement, que sur le temps très long, on peut considérer la bourse, on peut considérer des placements dynamiques. Alors, le Bitcoin, à voir, ça peut être hors assurance vie, on va dire.
Pour l'instant, on n'a pas encore d'unité de compte en Bitcoin, mais... C'est certainement dans l'air du temps.
On verra. Merci beaucoup Marion Chapelle-Massot de Decarion. Merci d'avoir été avec nous. Et donc, on vous rappelle cette stratégie en trois temps pour votre assurance vie. Le temps court, le moyen terme et le long terme, bien évidemment. Et le long terme, on peut se permettre de prendre plus de risques. Merci d'avoir été à l'écoute de Tout pour investir. Prochaine édition demain. Moi, je vous retrouve à 15h30 dans l'émission de Guillaume Sommerer, BFM Bourse, 15h30, 18h. Et puis, d'ici là, je vous laisse avec Marie-Cœur de Roy. Ce sont les experts IMO. À plus tard.
Tout pour investir sur BFM Business.